Aujourd'hui, dans ce cycle 2 d'approfondissement, nous allons entrevoir la sainteté. Voilà, nous rappeler que la vocation chrétienne, c'est être saint. Jean-Paul II a dit un jour à quelqu'un à qui on demande le baptême, « Veux-tu être baptisé ?» C'est un peu comme si on lui posait la question « Veux-tu être saint ?» Voilà. Donc depuis le baptême, nous sommes appelés à être saints parce que nous sommes appelés à refléter Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu et nous sommes appelés vraiment à lui ressembler, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc à montrer le saint, voilà, à témoigner de cette sainteté qui nous couvre et qui rayonne. Et donc notre vocation, quelle qu'elle soit, consacrée, religieux, religieuse, prêtre, marié, c'est être saint. C'est quelque chose qui, dans l'histoire de l'Église, a toujours existé. Il y a eu des saints de toutes les vocations. Mais à un moment donné, peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être, il y a eu ce sous-entendu, cette suspicion que finalement, pour être saint, il fallait être un bon religieux, un bon moine, quelqu'un du désert, là, qui a une bonne ascèse. Ça, au moins, c'est du solide, ça a fait un saint. Le prêtre diocésain, pas trop saint, pas très moine, pas très religieux. Mais alors le laïc, n'en parlons pas, pas de chance. Voilà, ils seront chrétiens malgré eux, ce ne sera pas des saints. Et le Concile Vatican II a rappelé que véritablement l'appel à la sainteté est pour tous, l'appel à la sainteté est pour tous, et certainement le cœur, nous l'avons dit plusieurs fois, le cœur de la Constitution sur le mystère de l'Église, Lumen Gentium, c'est le chapitre 5, qui est la vocation universelle à la sainteté dans l'Église. Permettez-moi de vous lire un extrait au paragraphe 40, ainsi qu'au paragraphe 41. Paragraphe 40. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie. Donc la perfection de la charité, la plénitude de la vie chrétienne, c'est ça, c'est la sainteté. Dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d'humanité dans les conditions d'existence. Les fidèles doivent s'appliquer de toute leur force, dans la mesure du don du Christ, à obtenir cette perfection, afin que, marchant sur les traces et se conformant à son image, accomplissant en tout la volonté du Père, ils soient, avec toute leur âme, voués à la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi, la sainteté du peuple de Dieu s'épanouira en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat à travers la vie de tant de saints l'histoire de l'Église. Paragraphe 40. Paragraphe 41. Chacun doit inlassablement avancer selon ses propres dons et fonctions par la voie d'une foi vivante, génératrice d'espérance et ouvrière de charité. Je répète, chacun doit inlassablement avancer selon ses propres dons et fonctions. Voilà, l'appel de la sainteté est varié. Et il nous est donné. Peut-être qu'il est bon aussi d'entendre Saint Jean-Paul II, qui a fait beaucoup justement pour promouvoir cet appel à l'universalité de la sainteté, lui qui a quasiment canonisé à tour de bras, qui a beaucoup canonisé de laïcs, voilà, en vue de montrer que la sainteté était pour tous, vraiment, que n'était pas l'apanage des religieux bien ascétiques, mais que c'était vraiment ouvert à tous. Voilà ce qu'il dit dans sa lettre apostolique au début du nouveau millénaire, Novo Millennio Innuente, qui a été écrit le 6 janvier 2001. Paragraphe sur la sainteté. Et tout d'abord, je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement pastoral est celle de la sainteté. N'est-ce pas le sens ultime de l'indulgence jubilaire ? Elle se réfère au jubilé de l'an 2000. en tant que grâce spéciale faite par le Christ pour que la vie de chaque baptisé puisse être purifiée et rénovée en profondeur. Nous pouvons aussi penser cela, cette grâce particulière de l'année jubilaire, de l'année jubilaire de la miséricorde. Voilà ce qu'il dit en continu. Je souhaite que parmi ceux qui ont participé au jubilé, beaucoup aient bénéficié de cette grâce en pleine conscience de son caractère exigeant. Une fois le jubilé terminé, la route ordinaire reprend. Mais présenter la sainteté reste plus que jamais une urgence de la pastorale. Il faut alors redécouvrir dans toute sa valeur de programme le chapitre 5 de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, consacré à l'appel universel à la sainteté, ce que nous venons de tirer comme extrait. Si les pères conciliaires ont donné tant d'importance à ce sujet, ce n'est pas pour conférer une sorte de touche spirituelle à l'ecclésiologie, c'est-à-dire à la théologie de l'Église, mais plutôt pour en faire ressortir un dynamisme intrinsèque et caractéristique. La redécouverte de l'Église comme mystère, c'est-à-dire comme peuple uni de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ne pouvait pas ne pas entraîner aussi la redécouverte de sa sainteté, entendue au sens fondamental d'appartenance à celui qui est par excellence le Saint, le trois fois Saint, comme dit Isaïe au chapitre 6. Dire que l'Église est sainte signifie présenter son visage d'épouse du Christ pour laquelle il s'est livré, précisément en vue de la sanctifier, Éphésiens 5. Ce don de sainteté, pour ainsi dire objective, est offerte à chaque baptisé. Mais le don se traduit à son tour en une tâche qui doit gouverner toute l'existence chrétienne. En la première épître aux Thessaloniciens, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. C'est un engagement, continue le Saint-Pape, qui ne concerne pas seulement certains chrétiens. Tous les fidèles du Christ, quel que soit leur état ou leur rang, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Rappeler cette vérité élémentaire et en faisant le fondement de la programmation pastorale dans laquelle nous nous engageons au début du nouveau millénaire pourrait, au premier abord, sembler quelque chose de peu opérationnel. Peut-on programmer la sainteté ? Que peut signifier ce mot dans la logique d'un plan pastoral ? En réalité, placer la programmation pastorale sous le signe de la sainteté est un choix lourd de conséquences. Cela signifie exprimer la conviction que si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans le Christ et l'inhabitation de son esprit, ce serait un contresens que de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « Veux-tu devenir saint ?» Cela veut dire mettre sur sa route le caractère radical du discours sur la montagne en Matthieu 5 « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Comme le Concile lui-même l'a expliqué, il ne faut pas se méprendre sur cet idéal de perfection, comme s'il supposait une sorte de vie extraordinaire, que seuls quelques génies de la sainteté pourraient pratiquer. Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Je répète, les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Je remercie le Seigneur qui m'a permis de béatifier et de canoniser ces dernières années de nombreux chrétiens et parmi eux beaucoup de laïcs qui se sont sanctifiés dans les conditions les plus ordinaires de la vie. Il est temps de proposer de nouveau à tous, avec conviction, ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction. Je répète, toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction. Il est toutefois évident que les parcours de la sainteté sont personnels et qu'ils exigent une vraie pédagogie de la sainteté qui soit capable de s'adapter au rythme des personnes. Cette pédagogie devra intégrer aux richesses de la proposition adressée à toutes les formes traditionnelles d'aide personnelle et de groupe et les formes plus récentes apportées par des associations et par les mouvements reconnus par l'Église. Tous les mouvements, toutes les communautés, tous les appels sont en réalité des moyens que le Seigneur nous donne dans l'Église pour devenir saint. Voilà. Aller à l'adoration, aller se confesser, communier, entendre la parole de Dieu, vivre fidèlement son devoir d'État, c'est répondre à sa vocation de devenir saint. Et dans le fond de notre cœur, une question est posée, est-ce que je prends sérieusement les moyens de devenir saint? Quels sont les moyens pour moi pour devenir saint? Est-ce que j'ai le désir de devenir saint? J'y crois ou pas? C'est important ou pas? On va en parler. Comme dans les premiers de l'an, on dit « bonne santé ». Il faudrait dire « bonne sainteté ». La santé, ça part. La sainteté, ça se gagne et ça dure. Alors, tout d'abord, entrons dans la contemplation de la sainteté. Le Seigneur qui dit hein, « soyez saints car je suis saint » dans le livre du Lévitique, qui est repris aussi dans la première épître de saint Pierre, chapitre 1, verset 16. Puis nous avons entendu Matthieu, « soyez parfaits car votre Père céleste est parfait ». Le Seigneur nous appelle à la vocation à la sainteté parce que lui-même est saint. Et dans le langage sémitique, le mot de sainteté, chose sainte, dérive d'une racine signifiant sans doute, nous disent les exégètes, quelque chose autour de couper, de séparer, qui permet d'organiser une distinction entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Ce qui est saint n'est pas de l'ordre du profane, il y a des choses sacrées. Voilà. Donc il y a une distinction. Les choses saintes sont celles qu'on ne touche pas ou qu'on approche que dans certaines conditions à partir d'une pureté rituelle. Voilà, il fallait se préparer. On pouvait être impur, dit l'Écriture. Mais encore, la Bible va plus loin. Non seulement elle définit la sainteté par la différence avec le profane, mais elle affirme aussi que la sainteté contient la révélation de Dieu lui-même. Car la sainteté a sa source en Dieu. Dieu est le saint. Ce n'est pas simplement la distinction, c'est que la sainteté, c'est Dieu. Voilà. Et la sainteté est quelque chose d'inaccessible à l'homme. Ça, va falloir le répéter. C'est quelque chose d'inaccessible à l'homme par l'homme lui-même, laissé à lui-même. Pour que celui-ci reconnaisse la sainteté, la connaisse, il faut que Dieu se manifeste. Il faut que Dieu se sanctifie. Oh, il n'a pas besoin de se sanctifier, le Seigneur, il est saint. Mais quand nous disons que ton nom soit sanctifié, que Dieu se sanctifie, nous voulons dire par là que Dieu se montre saint, qu'il montre sa gloire. À ce moment-là, nous allons connaître quelque chose de la sainteté de Dieu, et nous y approcher. La création, les théophanies, les manifestations de Dieu, la transfiguration, l'épiphanie, l'incarnation, l'apparition de Dieu dans l'Ancien Testament, toutes ces manifestations de Dieu, les théophanies, les épreuves, les châtiments, les protections miraculeuses, certaines délivrances, montrent en quel sens Dieu est saint, puisqu'il intervient et montre sa gloire. La sainteté de Dieu, elle est présente en Dieu dans tous ses états, entre guillemets. Quand Dieu répond avec amour ou quand Dieu, dans la Bible, se met en colère, il est toujours saint. La sainteté, ce n'est pas un changement d'humeur et la sainteté varierait. La sainteté est toujours là parce que c'est l'expression de Dieu, c'est son être. Dieu est saint. En Osée, au chapitre 11, il est dit « Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. car je suis Dieu, moi, et non pas homme, au milieu de toi, qui est le Saint. Dans le temple, en Isaïe 6, le Seigneur apparaît au prophète, comme un roi à la majesté infinie, comme le Créateur dont la gloire remplit toute la terre, comme l'objet d'un culte que seuls les séraphins peuvent lui rendre. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas assez saints pour contempler sa face. Et l'homme lui-même ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et pourtant, Isaïe entend « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Et nous reprenons cela dans notre culte que nous rendons à celui qui est saint, dans le Sanctus. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu, le caractère de la sainteté de Dieu est plus qu'un attribut. Tu es bon, tu es vrai, tu es miséricordieux. C'est plus que cela. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le nom de Dieu est saint, nous dit le psaume. Et le Seigneur lui-même, en Amos, jure par sa sainteté. Il se prononce par lui-même. Parce que la sainteté de Dieu, c'est ce qui est premier. J'ai été très frappé. Un spirituel, le père Joël Guibert, nous rappelait cela dans son livre sur la miséricorde, que le Christ est apparu donc à sœur Faustine comme le miséricordieux. Mais il s'est révélé comme le miséricordieux en troisièmement. En deuxièmement, il s'est d'abord révélé comme le Dieu juste, et en premièrement, il s'est révélé comme le Dieu saint. C'est d'abord comme Dieu saint qu'il s'est révélé à sœur Faustine. Voilà ce que nous dit le père Guibert. Dieu est amour, nous dit saint Jean. Notre époque a parfois réduit Dieu à un copain, au point d'en oublier sa transcendance. Ceci ne veut pas dire que Dieu soit capricieux, méchant, que plus on le tiendra à distance, mieux on se portera. Mais il demeure le saint, c'est-à-dire qu'il est un trop-plein d'être et d'amour. Si Dieu ne prenait pas soin d'adapter le cœur humain et les conditions de la rencontre avec lui, l'homme en mourrait littéralement. En effet, dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, il est dit « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre ». Sœur Faustine rapporte « Le premier attribut que le Seigneur me fit connaître, c'est sa sainteté. Cette sainteté est si grande que toutes les puissances et les forces tremblent devant lui. La sainteté de Dieu se répand sur l'Église de Dieu et sur chaque âme vivant en elle, à des degrés divers. Il y a des âmes toutes pénétrées de Dieu et il y en a qui en vivent à peine. Par pitié, j'espère qu'on va être de plus en plus pénétrés. » Vous voyez, c'est le premier élément. Dans cette pleine lumière, cette gloire, cette sainteté, Dieu montre ce qu'il est. Et c'est d'ailleurs en faisant l'expérience de la sainteté de Dieu qu'Israël va du coup comprendre qu'il est pécheur. Dans la lumière, on voit les zones d'ombre. Et le péché amène la notion de justice, ce qu'on doit rendre ou qu'on n'a pas rendu à Dieu. Et à la suite de quoi, Dieu demande justice. Et il peut même accorder miséricorde, un surplus. Et donc on voit que sœur Faustine est rentrée dans cette pédagogie, Dieu saint, Dieu juste, Dieu miséricordieux. Mais ce qui est premier, c'est que Dieu est saint. Voilà, profondément. Saint, saint, saint le Seigneur. Et Dieu veut que son nom soit sanctifié. Non pas qu'il faut travailler à ce qu'il soit plus de gloire, il est la gloire tout court. Mais il veut que son nom soit sanctifié. Et quand nous disons cela, c'est très important parce que le Seigneur nous a appris à prier. Les apôtres ont demandé au Seigneur « Apprends-nous à prier ». Et le Seigneur leur a donné le Notre Père, il nous a donné le Notre Père. Prière que nous pouvons dire de manière chrétienne le jour de notre baptême. Vous savez que celui qui est appelé à être saint, c'est celui qui a reçu le baptême. Veux-tu être saint? Veux-tu être baptisé? À la veille pascale, les nouveaux baptisés disent enfin, de manière chrétienne, avec le Saint-Esprit, le Saint en nous, le Notre Père. Et donc le Notre Père, la première formule du Notre Père, Ce n'est pas de demander des choses, de pardonner. Souvent, étonnamment, et moi le premier, on est très concentré sur la deuxième partie du Notre Père. Donne-nous ce qu'on a besoin, pardonne-nous, délivre-nous du mal, ne soumets pas la tentation. Très bien. Mais les trois premiers, qui sont premiers, qui sont mis dans un ordre, que ton nom soit sanctifié, c'est la première prière. On l'oublie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ça ordonne tout. Or, la première chose que le Seigneur nous apprend à faire dans la prière, c'est de dire que ton nom soit sanctifié. Proclamer le nom du Saint, voilà, mais aussi travailler à répandre cette sainteté. Voilà ce que nous dit l'Église. Donc, que ton nom soit sanctifié au numéro 2807 de son catéchisme. Très intéressant. Le terme sanctifié doit s'entendre ici non pas d'abord dans le sens causatif, Dieu seul sanctifie, rend saint, mais surtout dans un sens estimatif, reconnaître comme saint, traiter d'une manière sainte. C'est ainsi que, dans l'adoration, cette invocation est parfois comprise comme une louange et une action de grâce. La sainteté de Dieu, vous voyez, ce n'est pas d'abord de dire « on va rajouter de la sainteté », mais c'est que Dieu soit connu comme le saint. Voyez, non pas rajouter Dieu et un trop-plein de sainteté, mais le faire connaître en tant qu'il est saint. Et comment je vais faire connaître le nom de Dieu qui est saint? C'est-à-dire que ça doit être en moi un très grand désir. Si je contemple la sainteté de Dieu, j'ai envie de faire la promotion de la sainteté de Dieu. Comment c'est possible? En imitant le saint, en recevant de lui sa sainteté. Si nous sommes à l'image de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, précisément nous sommes à l'image, c'est-à-dire nous sommes capacité d'aimer, capacité relationnelle, capacité d'intelligence, mais nous avons cette capacité à l'image de Dieu, nous avons aussi à lui ressembler, c'est-à-dire elle devient de plus en plus rayonnante. Donc il faut y participer. Et en fait, je montrerai le nom du Saint, le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, dans la mesure où sur moi se manifeste la ressemblance de Dieu. Et pour cela, il faut que je devienne saint. Le saint, c'est celui qui montre le nom de Dieu, la sainteté de Dieu. Sa sainteté n'est pas la sienne, c'est la sainteté de Dieu qui a pris acquisition de sa personne. Le curé d'Ars, ses contemporains qui étaient allés voir le curé d'Ars, la famille du curé d'Ars, sont allés voir, il y en a un témoignage qui est comme cela. En gros, c'est ça, je ne cite pas littéralement, mais c'est cela. Qu'est-ce que vous êtes allé voir à Ars? Un petit prêtre, un vieux prêtre. Et une personne a répondu, j'ai vu dans un homme Dieu. Donc le saint, c'est celui qui montre Dieu. Voilà. Et du coup, qui répond à sa vocation fondamentale d'être saint comme Dieu est saint, de sanctifier le nom parce que ça se voit. Et c'est son désir profondément, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est notre vocation, et nous avons à y répondre. Donc c'est le plan de vie essentiel. Hein. On va voir ça, mais la mondanité, qui est comme de l'eau qui imbibe une éponge que nous sommes, a fait que nous avons dévié dans nos projets de vie, dans nos projets éducatifs familiaux. Mais nous oublions que la sainteté est la première et l'ultime direction que nous vous avons à prendre. Et le concile nous le rappelle. Dieu nous appelle à être saints. Dans l'Écriture, Dieu se révèle comme saint, et de manière de plus en plus dans la révélation, on voit que c'est Jésus qui est le saint aussi. Dans l'Évangile selon saint Marc, quand le Christ fait des exorcismes, les démons sortent des personnes. Donc c'est tout le contraire de la sainteté de Dieu, de manière absolue. Et il leur dit ça justement, les démons, ils leur disent à Jésus, lui disent, nous savons qui tu es le saint de Dieu. Donc ils savent très bien qu'ils s'adressent à celui sur lequel ils n'ont pas prise. Le Seigneur les fait taire et ils se taisent parce qu'ils n'ont pas prise sur lui. Le Seigneur est le saint, celui qui vient de Dieu, qui vient du saint, qui agit, qui pose les actes sanctifiants. Tes péchés sont pardonnés, qui donne la vie divine. Il est le saint par excellence. Il est la manifestation de la gloire de Dieu en direct. Et du coup, quand il meurt sur la croix, par exemple, le rideau du temple se déchira. Le rideau du temple cachait le Saint des Saints. Le lieu était la présence de Dieu, qui était cachée. Le rideau du temple enlevé, la présence de Dieu est plus accessible. Mais pourquoi? Parce que le Christ, le Saint, en mourant, nous a donné accès à la sainteté. Voyez? Donc il est le Saint. Il est le Saint. Et le fait que nous allons être baptisés dans sa mort et sa résurrection, et le baptême donne accès à la sainteté. Le rideau du temple est enlevé, on plonge dans la sainteté. Donc le Christ est celui qui est le Saint par excellence. Nous avons vu, hein, Jésus est le Saint. L'homme est appelé à être saint. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Le Seigneur est le Saint fondamentalement. Et l'homme est appelé à représenter, à rayonner la sainteté de Dieu, à manifester le nom du Saint. Et d'ailleurs, tout le problème du terrorisme, tout le problème de la dissolution familiale, des guerres, c'est qu'on a une fausse image de l'homme, de la femme et de Dieu. Ça vient que le Saint n'est pas assez connu, n'est pas assez lumineux pour nos contemporains. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de petits saints. S'il y avait plus de saints, on verrait plus le Saint, avec un grand S. Et à ce moment-là, les fausses images de Dieu tomberaient. Donc il y a un vrai urgence aujourd'hui, c'est la sainteté. L'urgence pour la société française, l'Europe, le monde, c'est la sainteté. La sainteté, c'est le programme le plus révolutionnaire, durable, qui change la civilisation. Ultimement, dans le dessein de Dieu, certainement, tout se mesure si c'est favorable ou pas à la sainteté. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Tous les moyens de l'Église, les grâces qui sont données, sont en vue de sanctifier. Alors, on va rentrer maintenant dans des choses un peu plus opératives, c'est-à-dire concrètes. Il y a des écueils. Premièrement, c'est que nous ne serons pas saints par nous-mêmes. Nous serons saints par l'Esprit Saint, pas par nous-mêmes. Parce que, je disais, l'homme ne produit pas la sainteté. Et donc, nous avons besoin de la grâce, d'une vie de grâce. La sainteté, ce n'est pas d'abord de la morale. Et je pense là qu'il faut vraiment revoir complètement la manière, parfois, dont on a pu enseigner récemment une vie chrétienne qui consistait simplement à imiter Jésus, mais sans vivre de la grâce. On est tombé dans une morale stérile, en oubliant que c'est le Christ qui nous donne la grâce. Et que ça, l'homme, même l'homme le plus vertueux, ne produit pas par lui-même la grâce, ne peut pas devenir saint. Ce n'est pas à coup de poignée qu'on arrive au ciel. Ça, c'est très important. Il faut donc d'abord demander la grâce. Et cette grâce, comment on la reçoit? Dans la prière. On la reçoit dans les sacrements, de manière particulière, car ils sont les canaux de la grâce. En écoutant la parole, parce que la parole est parole de grâce, en obéissant à l'Église. Voilà, ça c'est des moyens surnaturels pour recevoir la grâce, voilà, pour se confesser. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne voit pas, en apparence, une personne en état de grâce ou une personne qui n'est pas en état de grâce. Vous vous souvenez de cette parole de Jeanne d'Arc? Un de ses juges lui a dit « Êtes-vous dans la grâce ?» Elle lui a dit « Si j'y suis, que Dieu m'y laisse, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. » Ça veut dire qu'il est difficile en apparence de voir la sainteté de l'autre. Cette sainteté demeure cachée en Dieu. Nous sommes, comme dit l'Écriture, cachés en Christ. Mais au ciel se manifestera la sainteté. Se manifestera cela. C'est-à-dire, nous verrons la gloire de chacun. Il y aura un rayonnement de gloire pour chacun, qui est caché en Dieu. Oh, bien sûr, parfois, on pressent certains éléments. Une vie très ardente, un rayonnement, une paix constante, donne des signes d'une certaine habitation de Dieu dans la personne. Quelque chose. Et puis pour ceux qui sont vraiment saisis, là on peut dire, c'est des saints. Peut-être. Mais seul Dieu mesure ultimement la sainteté de chacun. Seul Dieu la connaît, elle nous est cachée. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si en apparence nous semblons bien tièdes. La sainteté n'est pas à confondre avec les grandes ardeurs. Thérèse de Lisieux s'endormait en oraison. La sainteté n'est pas à confondre avec les grandes ardeurs. Quand Thérèse de Lisieux est morte, ses sœurs ont dit « Mais qu'est-ce qu'on va dire sur elle ?» Elle n'a rien fait, en gros. Quoi. Elle faisait des choses très banales. Simplement, Dieu savait ce qu'elle faisait, et même ramasser une aiguille, elle le faisait avec une telle union à Dieu qu'en apparence ça changeait rien, et pourtant devant Dieu ça changeait tout. Et en fait Dieu a voilé cette sainteté, mais à un moment donné elle a été dévoilée. Et de fait, on dit c'est la plus grande sainte des temps modernes. Hein? Donc la sainteté peut être extrêmement cachée et ordinaire, elle ne se voit pas. Donc il ne faut pas chercher des choses extraordinaires, mais il faut désirer cette sainteté. Il faut désirer l'union à Dieu très forte. Et d'abord, je disais, la vie de grâce. Et nous en avons parlé dans l'enseignement sur le Saint-Esprit, la docilité au Saint-Esprit. Je recite cette parole de Sœur Faustine dans son petit journal. « Ô mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier, il faut seulement un petit peu de bonne volonté. Si Jésus découvre ce minimum de bonne volonté dans l'âme, il se hâte de se donner à elle. » Et rien ne peut l'arrêter, ni les fautes, ni les chutes, absolument rien. Car Jésus est pressé d'aider cette âme. Et si l'âme est fidèle à cette grâce de Dieu, elle pourra, en peu de temps, parvenir à la plus haute sainteté qu'une créature puisse atteindre ici-bas. Dieu est très généreux et ne refuse sa grâce à personne. Il donne même plus que nous demandons. La fidélité aux inspirations de l'Esprit-Saint, c'est le chemin le plus court. Pour cela, je vous invite à entendre l'enseignement sur l'Esprit Saint, après les dons du Saint-Esprit ou avant, je ne me souviens plus, il y a eu quelque chose sur comment vivre du Saint-Esprit. C'est clair, ça aide énormément pour accueillir la grâce et devenir saint. Et de fait, la personne qui sanctifie dans la Trinité, c'est l'Esprit Saint. Donc il faut prier et vivre dans la docilité au Saint-Esprit. D'accord, la grâce. Très bien. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que nous avons redécouvert dans l'Église, on va dire, un peu plus de 30 ans. C'était déjà présent dans toute l'histoire de l'Église. Je pense par exemple au Père Marie-Eugène, qui a un enseignement sur le Saint-Esprit qui est très puissant. Ce futur bienheureux que le pape François va bientôt béatifier, il a un enseignement sur le Saint-Esprit qui est très puissant. Et il a pensé, Dieu lui a donné ces choses-là, cette synthèse carmélitaine, avant le Concile. Lui-même, lisant le Concile, a été très heureux de voir ses intuitions sur l'appel universel à la sainteté confirmées. Très bien. Mais quand même, pour une grande partie des chrétiens, c'était plutôt une vie morale. Dieu nous aidait un peu, puis il fallait faire son petit lot de chemin. Et non. En particulier, le renouveau charismatique a rappelé le primat de la grâce. Il n'est pas le seul, mais quand même, c'est un courant important dans l'Église au XXe siècle qui continue à porter des fruits, le primat de la grâce, de la vie du Saint-Esprit. Donc, grâce première. Très bien. Donc, vous voyez, il y aurait une erreur à penser qu'on va être saint sans Dieu. Mais il y a une autre erreur qui peut être aussi courante, c'est le chrétien hors sol. Le chrétien hors sol, c'est-à-dire, on prie la grâce, on prie très bien, puis on en reste là. Oui, mais non. La fidélité au devoir d'État. La fidélité au devoir d'État. Il n'y a pas que la prière. Il n'y a pas que les sacrements. Il y a aussi l'état de perfection dans tout ce que je vais faire. Et là, deux choses sont des écueils. La première chose, est-ce que ce que je le fais pour Dieu et surtout avec Dieu? Je répète, est-ce que je le fais pour Dieu et avec Dieu? Le balai, la cuisine, le travail, aller voir les amis, écrire une lettre, me coucher, le ménage. Tout ça, c'est le lieu de la sainteté ordinaire. C'est donc le lieu où Dieu me travaille, où je le rencontre et où je le sers. Ce n'est pas que dans la prière. Saint Jean de la Croix le dit, il n'y a pas de saint sans prière. Mais tout le reste est aussi le lieu de la sainteté. Et il y a pu y avoir peut-être une tentation pieuse qui oublie le concret. Et je pense profondément, dans l'apostolat des laïcs, c'est tout le domaine du profane qui est à sanctifier. C'est tout le domaine de la vie chrétienne qu'il faut vivre. Donc avec Dieu et pour Dieu, et je vais le développer encore, Dieu demande qu'on soit des saints et qu'on les cherche au mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on soit compétent dans son domaine pour le servir au mieux. Il ne s'agit pas simplement de prier quand on est professeur. Il s'agit de très très bien travailler pour être un bon pédagogue et avec la grâce de Dieu servir le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être un footballeur et de prier pour Dieu. Il s'agit de très très bien s'entraîner et avec la grâce de Dieu servir le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a aussi une part de sueur, une part de persévérance et d'avoir une exigence très haute pour soi-même. Parce que celui qui croit servir Dieu en négligeant son devoir d'État, son travail, ben il sert qui en fait? Il croit montrer quelle dignité, quelle est la dignité de son travail. Voyez? Donc ça c'est très important. Et des saints comme Saint José Maria Escriba de Balaguer, je vous invite à regarder le livre Sillon, Chemin, etc., montre bien que le lieu du travail, en particulier qui représente peut-être 70% des activités quand même des laïcs, hein. Il faut avoir conscience. Hein. Parfois, on peut croire que la sainteté, c'est en dehors des 70%. Non, mais c'est là que se joue l'apostolat des laïcs, comme le Concile l'a rappelé. Et bien, ce lieu-là, il est à vivre de manière excellente, de manière la plus compétente, et avec la grâce de Dieu, comme le lieu de l'union, comme le lieu de l'offrande. Pour la gloire de Dieu. Voyez, le devoir d'État, la fidélité au devoir d'État. Voyez, ça c'est très important, ça nous permet de nous incarner, de ne pas être, comme je disais, hors sol. Prière première, grâce toujours en premier, mais après, on s'enracine dans la terre. Et les deux tentations peuvent exister. La sainteté demande la grâce en premier, de la persévérance. Comme disait quelqu'un, les saints n'ont pas toujours bien commencé, mais ils ont toujours bien fini. Il y a des saints qui commencent bien toujours. On a l'impression, c'est en ligne droite, Saint Thérèse de Lisieux bénira la miséricorde de Dieu parce qu'il semblerait que les cailloux qui étaient sur son chemin ont été enlevés et qu'elle n'est pas tombée. On dira, ça vient de Dieu. Très bien. Mais certains ont des gros cailloux sur leur chemin, ils tombent et ils retombent, on a l'impression qu'ils en portent eux-mêmes des cailloux, des énormes pierres. Toujours est-il, Dieu peut leur permettre d'être des saints. Ce qui est très important, c'est de faire comme Thérèse de Lisieux, de prendre la décision de ne jamais se décourager. Ou encore, comme Sœur Faustine, d'avoir confiance en Jésus, que Jésus aidera toujours. Ça, c'est très important. Parce que Dieu donne véritablement à chacun la grâce nécessaire pour être un saint. Il y a des paroles très fortes que nous pouvons entendre dans Sœur Faustine. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors, un petit avertissement, et moi le premier, de Sœur Faustine. Grandes sont les fautes de la langue. L'âme ne parviendra pas à la sainteté si elle ne maîtrise pas sa langue. Je pense que c'est bien à dire ça, d'entendre ça. Y compris pour les prêtres, nous parlons beaucoup. Grandes sont les fautes de la langue. L'âme ne parviendra pas à la sainteté si elle ne maîtrise pas sa langue. Voilà. Pareil, la sainteté, ce n'est pas... Vous savez, il y a trois niveaux. Il y a le niveau de l'avoir, avoir des choses, avoir des biens, de l'argent, voilà, de la nourriture, de la sécurité. Alors, il y en a qui s'en passent parce qu'ils ont un autre niveau, c'est l'ego ou c'est la culture. Ils savent des choses. Il faut en savoir beaucoup. Prêtre aussi, ça peut être une tentation. Mais ces deux niveaux, le savoir ou l'avoir, c'est rien. C'est le troisième niveau qui est intéressant. C'est l'être. C'est le fait de devenir saint. Si l'avoir aide à être saint, très bien. S'il n'aide pas, on l'enlève. Si le savoir aide à être saint ou à faire des saints, on le garde. S'il n'aide pas, s'il enfle, on l'enlève. Le but, c'est la sainteté. Tous mesurent la sainteté. Et donc, pour les parents ou les grands-parents, une vraie éducation, c'est une éducation à la sainteté. C'est très étonnant, mais vous savez, vous avez entendu que notre curé nous a parlé de Louis et Zélie Martin. Et ils ont été très bons et aussi fermes avec leurs enfants. Parce que ce qu'ils désiraient, c'est une éducation pour faire des saints. Pour faire des saints. Vous voyez, l'éducation, ce n'est pas ultimement et chrétiennement, dans une visée chrétienne, ce n'est pas simplement acquérir des connaissances, une manière de vivre. C'est de faire des saints. Si nous comprenons que l'éducation, c'est de faire des saints, alors de fait, on est beaucoup plus exigeant. Donc, il ne faut pas rabaisser ce niveau d'exigence, parce que c'est le vrai niveau de l'éducation. Vous voyez, si on prend sérieux ça, ça vaut le coup. Sinon, soit c'est vie sainte, soit c'est vie ratée. Soit c'est vie sainte, soit c'est vie ratée. La sainteté, ça ne sera pas celle que nous voulons. Le moteur pour avancer, c'est le désir. Y persévérer, ne pas se décourager, croire que Dieu va nous donner la grâce, et avancer, et s'impliquer dans la matière, dans notre état de vie. Très bien. Mais la sainteté ne sera pas comme Dieu veut que nous soyons saints. Ça se fera peut-être même à d'autres dépens. On ne verra rien du tout, et quelqu'un dans notre dos dira « mais en fait, il est un saint ». Vous voyez ? Vous avez un très beau film qui montre cela, c'est un film de spiritualité orthodoxe qui est le film Lille. Le film Lille raconte quelqu'un qui est taraudé par le meurtre d'une personne qu'il n'a pas commis, mais qui croit l'avoir commis. Et il rentre au monastère orthodoxe. Et il vit comme un fou. Il a des songes, enfin, il fait des miracles, il est pris pour un fou dans son monastère. Et en même temps, comme un homme de Dieu. Et lui, il s'en veut complètement parce qu'il a ce meurtre dans la tête. Alors il prie le Seigneur pour sa pauvre âme, etc. Il renvoie tout le monde parce qu'il ne se croit pas digne des honneurs. Toujours est-il, les gens viennent. Et les gens décèlent en lui l'homme de Dieu. Et lui ne le voit pas. Sa sainteté s'est faite à ses dépens, il n'a rien vu du tout venir. Mais pour beaucoup de choses, Dieu nous cache ce qu'il fait en nous. Donc on ne doit pas se décourager en apparence. On doit croire que Dieu œuvre. Que Dieu œuvre si on lui donne la possibilité. Mais non pas comme nous voulons. Le but de notre vie, en fait, on dit d'une autre manière, c'est le salut. C'est de devenir saint. Donc Dieu, tous les événements de notre vie sont permis par le Seigneur pour devenir saints. Je dis bien les événements que nous ne maîtrisons pas. Notre péché, nous pourrions l'éviter. Mais Dieu se sert de tout pour devenir saint. Et donc, le saint, que ton nom soit sanctifié, troisième parole de notre Père, que ta volonté soit faite. Il rentre dans cette logique. Que ta volonté soit faite. Le fait de choisir ce que Dieu veut pour moi, c'est choisir la sainteté que Dieu veut me donner. À travers les croix, les difficultés, les joies, tout. Tu veux ça pour moi, c'est bon pour moi, on y va. Et comme Thérèse de Lisieux encore, je choisis tout, je ne veux pas être une sainte à moitié. Donc ça, c'est vraiment le chemin de sainteté. Et donc, quelque part, il faut démissionner à sa propre vision de sa carrière, à sa propre vision de sa vocation, à sa propre vision de telle ou telle qualité. Ce n'est pas du tout sûr que Dieu veut ça. Voyez, on peut chercher une perfection en dehors de Dieu. Ce qui est important, c'est d'accueillir ce que Dieu est en train de faire. Voyez. Et il fait les choses. Il le dit. Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre, dit le Seigneur dans Saint Jean. Alors voilà, je nous invite à désirer la sainteté, à croire que Dieu est le saint. Voilà, Israël avait comme vocation de montrer le saint au monde. De montrer cette sainteté, et nous, par notre baptême, nous avons aussi cette vocation de montrer que Dieu est le saint. Voilà, que ça nous rendra. Être saint, c'est pas être atrophié. Hein. Être saint, c'est pas devenir une sorte de grenouille de bénitier confite, hein, sous un modèle standard. Pas du tout. Ça veut dire on va véritablement développer notre personnalité. Hein. La sainteté personnalise, parce que Dieu est saint. On devient vraiment ce que Dieu veut. Et donc, on va vraiment être heureux en devenant saint. Pas comme on le veut, mais comme Dieu veut, mais ça va nous rendre heureux. Donc, désirons être saints, regardons les autres comme des gens en chemin vers la sainteté et ayons soin des autres en ayant conscience, ah, peut-être que ça va l'empêcher d'être saint, faisons attention à ça. Voyez, ayons le souci de la sainteté des autres. La vocation des prêtres, entre autres, c'est de se soucier de la sainteté des autres, de sanctifier les autres. Mais c'est aussi valable pour une part des chrétiens, dans la famille, dans nos amis, ayons souci qu'ils réalisent leur vie, donc qu'ils deviennent des saints.